commencer par faire un bref topo de la situation en Suisse, ici, au niveau de la défense de l'agriculture paysanne, quand on sait qu'elle est mise à rude épreuve par nos politiques partout dans le monde. Et en Suisse, il y a syndicats paysans qui luttent depuis longtemps aux côtés des camarades internationaux. Qui est membre de la Via Campesina. La Via Campesina, c'est un mouvement paysan qui regroupe 200 millions de paysans à travers le monde et dans plus de 74 pays, et qui centralise la lutte paysanne à l'échelle mondiale, qui centralise la solidarité. Et c'est la Via Campesina qui a émis le concept de souveraineté alimentaire comme réponse à cette dynamique destructrice des petits paysans et des petites paysannes dans tous les pays. Donc la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment reprendre en main notre système, nos systèmes alimentaires, nos productions, nos semences, la distribution de celles-ci et reprendre en main en fait nos assiettes jusqu'au champ. Et c'est pour cela que le syndicat paysan suisse solidaire, en parallèle d'aider les paysans paysannes dans leur lutte face à ces gros acheteurs qui centralisent de plus en plus la nourriture en Suisse, je pense aux deux géants Orange qui sont Coop et Migros par exemple, qui centralisent beaucoup, on les voit partout, c'est assez impressionnant la dynamique. Et notre syndicat a décidé de lancer une initiative populaire pour emprunter la voie légale vers cette souveraineté alimentaire. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est une initiative populaire. On a déjà lancé le texte qui a été écrit par un comité d'initiative qui regroupe beaucoup de personnalités, notamment les Verts. On a Biovision avec Hans-Rudolf Herren qui fait partie. On a des paysans, on a des politiciens aussi. Je pense à Lisa Mazzone, je ne les ai plus tous en tête, mais une belle ribambelle de personnes qui ont écrit un texte de une page qui viendrait remplacer l'article 104C sur l'agriculture de notre Constitution. Et c'était l'idée en fait de faire un texte très 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 précis sur ce qu'on veut comme agriculture pour demain. Et c'est pour ça qu'on a écrit 10 points qui expliquent clairement ce qu'on demande à notre gouvernement de prendre en main et de se rendre responsable sur certains points. C'est vraiment l'idée de demander par la voie légale au gouvernement de prendre ses responsabilités face à cette situation. Alors, malheureusement, j'ai mon collègue qui a été bloqué à Lausanne. J'ai aucune documentation pour l'instant. Il va sûrement arriver plus tard et j'espère au plus vite.
Sinon,
il y aura toutes les informations aussi sur le site internet et puis voilà, le site internet surtout. On est aussi sur Facebook. Et donc, ça regroupe beaucoup plusieurs points, notamment l'accès à la terre. Donc, on demande à notre gouvernement d'encourager un nombre d'actifs dans l'agriculture qui soit conséquent, surtout ceux qui sortent des écoles. Il y en a de plus en plus qui n'ont pas d'accès à la terre, car en raison du développement urbain de nos villes et de nos campagnes, c'est quelque chose qui est très difficile en Suisse, même si on a plusieurs autres collectifs qui ont réussi à reprendre des fermes. On a des législations qui sont aberrantes, des fois même pour des paysans qui veulent juste partir à la retraite, qui doivent payer un impôt phénoménal sur leur ferme pour rester y vivre. Enfin, c'est des petites lois comme ça qu'on trouve insupportables pour la relève paysanne. Il y a tout un volet aussi qui parle des prix, parce qu'on sait qu'en Suisse, le prix qui est donné aux paysans a baissé de 30% en 30 ans. Nos paysans suisses produisent à perte, surtout le domaine du lait, c'est assez marquant. Car nos paysans dépensent en moyenne 50 centimes pour produire un litre de lait, avec l'électricité, les coûts d'infrastructure, les salaires. Et on leur donne, en ce moment, je crois que c'est 38 centimes pour le litre. Donc c'est vraiment un des seuls métiers qui produit à perte et c'est assez affolant. Donc à travers cette initiative, on demande un prix équitable et un salaire digne pour les paysans paysannes. Car je parle sûrement à des connaisseurs et connaisseuses, hein, mais la Suisse a baissé ses prix pour les paysans et a en contrepartie donné des subventions à ces paysans. Des subventions s'ils entretenaient bien le paysage, si leurs animaux étaient bien gardés, si leur infrastructure était écologique. Voilà, on les a poussés dans un certain cadre. Et s'ils le faisaient, ils reçoivent toujours des subventions et c'est leur salaire. C'est vraiment leur salaire. Et ce que les paysans demandent, en tout cas, et les paysannes demandent aujourd'hui, c'est de revenir sur des prix justes au lieu de passer par ces subventions. Ça, c'est une position que nous prenons. Il y a notamment l'idée d'encourager les organisations paysannes. On demande à la Confédération d'encourager les petites structures, de leur donner du pouvoir dans les décisions face aux grands acheteurs. Et surtout, là où le bât blesse, surtout en Suisse, c'est qu'on se positionne contre le libre-échange. Et il faut savoir que notre gouvernement n'a pas du tout la même vision que nous. C'est-à-dire que, suite aux divers rapports qui nous ont présentés, le Conseil fédéral notamment, je pense à Schneider-Hamann, qui est un conseiller fédéral, qui a fait une vue d'ensemble sur l'agriculture, ça se trouve sur Internet, si vous voulez la lire, c'est assez affolant. La vision qu'ils ont pour la Suisse, de vraiment mettre l'accent sur nos entreprises de transformation, qui sont Nestlé, qui sont toutes ces compagnies en fait qui achètent à très bas prix le blé, le lait, transforment et vendent partout dans le monde avec des subventions à l'exportation en plus, des produits transformés, du lait pour bébé, des yaourts, voilà, tout à base de céréales et de blé. Et notre gouvernement, par ses déclarations et par ses actes et par ses législations qui met en place tous les jours, va dans cette direction-là. C'est-à-dire pousse les paysans à produire du blé, du lait, bon marché, pour les revendre ensuite à ces structures qui les transforment et c'est là que tout le bénéfice se fait. Donc si vous êtes intéressé de voir ces déclarations, il y a le rapport sur l'agriculture ainsi que la vue d'ensemble qui décrivent très bien les positions de notre gouvernement à ce sujet-là. Et on a même des camarades, qu'on peut appeler camarades ou pas, mais BioSuisse aussi, qui est mitigé. Et par rapport à ce libre-échange aussi, BioSuisse qui compte beaucoup sur les aliments bio qui viennent des pays voisins ou des pays un peu plus loin, n'était pas prêt à nous soutenir dans cette voie-là. Donc c'est dire à quel point on a un combat à faire, même face à BioSuisse, qu'on ne se dirait pas que BioSuisse aurait un intérêt, ou irait contre la souveraineté alimentaire de la Suisse. Et donc voilà, cette initiative, elle sera votée. On a eu très récemment l'information, elle est passée donc par le Conseil fédéral qui l'a rejeté sans contre-projet. Elle est passée devant le Conseil national qui l'a rejeté sans contre-projet. On a fini par arriver au Conseil des États qui l'a rejeté aussi sans contre-projet. Ce qui fait que tout le gouvernement rejette cette initiative. Et on va être amené jusqu'à la votation qui est le 23 septembre à se mobiliser grandement pour faire connaître notre initiative et pas se faire avoir par des mauvais coups de pub qui pourraient venir justement de l'économie suisse, des parties adverses en fait qui diaboliseraient notre initiative. Donc je vous invite tous et toutes à vous renseigner sur cette initiative et à la soutenir parce qu'elle a fait vraiment avancer les choses, en tout cas au niveau légal, de mettre des dispositions claires dans notre constitution pour vraiment une définition claire de notre agriculture de demain. Mais donc cette initiative, elle est lancée par Uniter. Uniter fait aussi beaucoup de travail de terrain. Et c'est pour ça aussi, enfin, là, je vais peut-être passer la parole du coup maintenant. Et on viendra ensuite, si vous avez des questions plus tard sur cette initiative, passer la parole aux camarades qui sont venus de loin pour venir nous présenter ce qui se fait concrètement, la lutte paysanne, concrètement, directe, sur des zones, vraiment pour créer des structures. Et je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous, ils, elles puissent vous expliquer cela.
Enfin, je peux vous dire un truc en réalité, c'est que les paysans conscients en France, qui font pas partie du plus gros syndicat français, qui est un syndicat donc d'agriculture intensive et industrielle, soutiennent vos projets, parce que la souveraineté alimentaire, c'est faire de l'équitable intramuros, quoi. Donc ça permettrait d'abord de réinstaller beaucoup de paysans, donc de combler sans doute du chômage dans des métiers, et en plus c'est des métiers très intéressants, c'est bien plus intéressant que de travailler dans des bureaux ou des trucs comme ça, et donc c'est très important que cette votation aboutisse et que surtout la suite de la votation aboutisse, quoi. Bon, allez, filles, à vous.
Est-ce que tout le monde voit ce que c'est la ZAD de Notre-Dame-de-Lande?
Oui.
On explique un peu quand même.
Bah, c'est une lutte de 50 ans, ça a commencé dans les années 60. Cette lutte représente le dépôt de trois déclarations d'utilité publique. En France, une déclaration d'utilité publique, avant d'être signée par le gouvernement, ce gouvernement mène une enquête publique. Et normalement, l'enquête publique devrait définir si oui ou non ils font cette DUP. Et les trois fois, les gens qui ont été enquêtés ont dit non. Et les trois fois, on a eu le droit quand même à la DUP. C'est la démocratie, la française, peut-être ailleurs aussi, mais enfin la française entre autres. Et donc, cette lutte dure depuis les années 60. Et elle a abouti au mois de janvier par l'abandon du projet d'aéroport, sachant que c'est pas le gouvernement vraiment qui a dit on fait plus l'aéroport parce qu'il ne faut pas le faire, c'est pas bien. C'est parce qu'ils étaient rendus au bout du rouleau, qu'ils n'avaient sans doute pas administrativement avancé assez vite et que la DUP est tombée d'elle-même le 8 février. Donc voilà, c'est une victoire donc pour les gens qui ont lutté contre cet aéroport. Je vais pas vous raconter tout le début, ça ne sert à rien. On va parler qu'à partir des années 2000, grosso modo, quand la dernière déclaration a été signée, c'est un gouvernement de gauche avec un ministre de l'écologie qui était un vert, une verte en l'occurrence, qui a signé cette fameuse DUP.
Déclaration
d'utilité
publique.
La déclaration, oui, j'ai dit tout à l'heure, la déclaration d'utilité publique, sachant que dans les années 60, les zones humides, on en avait plein et on ne savait pas trop ce que c'était. C'était peut-être pas... Bon, on pouvait peut-être les pardonner de construire des trucs sur des zones humides. Mais maintenant, on n'en a presque plus. Ils en ont détruit plein, en Loire-Atlantique en l'occurrence, qu'il y en avait beaucoup, il n'y en a presque plus. Et donc, cette zone humide de zone humide banale est devenue une zone humide remarquable. Et ils voulaient quand même faire cet aéroport. Donc là, il y a quand même eu un grand élan de contestation de la société civile et des paysans du coin, bien sûr. Je fais court, hein. Les paysans et les habitants de la zone, ça dure depuis tellement longtemps, sont devenus de moins en moins nombreux, soit sont partis pour des causes de travail, soit sont à la retraite, etc. Donc il est arrivé un moment en 2008 où il n'y avait presque plus personne. Et en 2008, il a été organisé le camp climat, tout le monde connaît les camps climat qui se passent un peu partout dans le monde. Il a été organisé à Notre-Dame-des-Landes et à cette occasion-là, un groupe d'habitants de la ZAD, qui habitait sur la ZAD, a demandé à des gens de l'extérieur de venir s'installer là pour refaire du monde, pour refaire du mouvement, etc. Et là, ce qu'on entend parler de la ZAD de maintenant, avec les ZADistes, tout ça, c'est parti de ce moment-là. Et donc, on est arrivé à 2012-2013, où il y a une première tentative d'évacuation de la ZAD parce qu'ils n'arrivaient pas à... Ils n'arrivaient même pas à faire les travaux préliminaires, ils n'avaient fait aucun chantier. Donc il fallait déjà renouveler une première fois cette fameuse déclaration. Ils ont donc essayé d'évacuer une première fois la zone. Et alors là, ça a fait l'effet tout à fait inverse. C'est-à-dire que de gens qui étaient venus occuper un peu, enfin, entre guillemets, un peu symboliquement, etc., on est arrivé à faire venir plein de gens avec des soutiens extérieurs énormes qui se sont installés là et qui se sont dit, mais on est bien ici, les terres sont libres, il faut les entretenir, etc., ben on va le faire. Et ils se sont lancés d'abord dans l'agriculture, avec du pain quand même dès le départ, puisqu'il y avait déjà un boulanger qui habitait sur place, qui est parti, a été remplacé par un jeune. Ils se sont donc lancés d'abord dans l'agriculture, soutenus par les paysans du Copain 44, qui est un collectif d'organisations paysannes qui a été indigné par le projet d'aéroport. Et ça a évolué jusqu'à devenir même de l'artisanat. Enfin, c'est devenu une micro-société autonome sur la ZAD. Pas sur toute la ZAD, hein, parce qu'on parle de grands chiffres, mais en fait, on occupe 300 hectares et on a 50 hectares de forêt en plus qui sont entretenus par les ZADIS. Mais c'est pas très grand, mais c'est déjà un bel exemple d'ouvrage collectif.
Voilà, ça fait une zone de 300 hectares qui sont des petits champs entourés de haies, une forêt, on est entre 200 et 300 à y vivre, et c'est ultra dense et ultra intense dans toutes les choses qui s'y mènent, toutes les expérimentations. Par exemple, là vous avez une espèce de petite représentation, le tableau derrière de tout ce qu'on produit matériellement. Donc, en plus de ça, il y a tout ce qu'on produit immatériellement, comme la bibliothèque qui a plus de 8000 livres, la radio, des projets de crèche, enfin, il y a quoi comme... J'ai pas la suite.
Combien de personnes habitent là ?
Entre 200 et 300, ouais, plus pas... des gens qui passent.
Et il y a des structures d'accueil ? Il y a des maisons ou des camps ?
Non,
il y a des maisons d'accueil, il reste des maisons en dur qui ont aménagé des sleepings pour accueillir les gens par exemple, et il y a un lieu plus spécifique où s'il y a des gens qui passent la journée, et bah, c'est l'endroit où ils peuvent venir poser des questions, savoir quel chantier il y a à faire telle ou telle journée, ou je sais pas quoi, le point touristique si on veut.
Il y a que ça quoi.
Non, on n'est pas en tente, on a... quand on dit cabane, bon, on n'a pas de photo là, mais il y a des cabanes qui restent, par exemple la sienne, comme ça, absolument magnifique. Bon, moi, celle où j'habitais, elle a été détruite il y a 3 semaines.
Mais... En tant qu'habitant, nous, on s'est construit des maisons, mais s'il y a des gens de passage, des fois, oui, ils font du camping, ils viennent comme ils veulent, qui viennent en camion, oui, ça les regarde.
Et il y avait de l'habitat en dur qui n'a pas été détruit, hein, qui a été sauvé. Voilà, c'est ça. En 2012, on a pris une grosse claque parce qu'ils nous ont cassé... En 2 jours, ils ont cassé 12 maisons en dur, mais après, la riposte a été quand même assez solide pour les arrêter. Et donc, il reste quand même beaucoup de maisons en dur hein, aussi, qui servent donc d'habitat, de lieux d'accueil, de lieux d'atelier, etc. Plus des constructions collectives importantes qui ont eu lieu depuis 5 ans.
Par exemple, dans les constructions collectives, maintenant, on a... tout un atelier, enfin, on se forme sur l'abattage du bois, des arbres, et, enfin, de la forêt et des haies. Et il y a un hangar qui a été construit qui sert d'atelier de menuiserie avec un banc de scie en train d'être monté. Donc on commence à être autonome dans la production de bois d'œuvre et de bois de chauffe. Donc ça nous permet d'avoir tout ce bois-là à disposition pour construire des nouveaux bâtiments maintenant, avec du bois qu'on a produit nous-mêmes. Depuis l'arbre de boue à la charpente finie.
Mais juridiquement, quels sont les propriétaires ?
C'est l'État. L'État français propriétaire.
C'est ça. Aucun
avec une concession, une concession à Vinci.
C'est ça le problème.
Mais c'est l'État qui est propriétaire.
Alors maintenant que le projet d'aéroport il a été abandonné, en fait, nous, on n'est pas du tout contre l'idée d'une régularisation. Ce qui nous tient à cœur, c'est que ça soit une régularisation qui prend en considération le fait qu'on fait tout ça en commun et qu'au niveau des campagnes et des villes, en fait de partout, maintenant la législation, elle essaye de tous nous réduire à des individus qui n'ont pas de lien entre eux, qui sont interchangeables, qu'on peut en accepter certains, en refuser d'autres. Et là, bon, enfin, je sais pas si tu veux parler de ça.
Non, je sais pas,
Voilà, donc là, le... dernièrement, c'est vraiment ça qu'ils nous ont accédé de façon tout à fait violente, hein, c'est qu'ils voudraient qu'on se déclare tous individuellement, puis que dans toutes les petites fiches qu'on leur a données pour se présenter, eux, ils fassent le tri de qui ils gardent et qui ils refusent. Et nous, on refuse ça, puis comme façon de sortir du conflit foncier, du conflit juridique. Pour l'instant, on est sur des façons d'en sortir à court terme. Et une fois qu'on sera sorti du conflit à court terme, on pourrait regarder pour le long terme. On a l'espoir de pouvoir racheter les terrains, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'ils les mettent en vente. Mais c'est dans quelques années. Actuellement, en fait, on est sur la tentative de signer une convention d'occupation précaire. Et ces conventions d'occupation précaire, c'est possible de les signer soit de façon individuelle, soit de façon globale. Et nous, on fait la demande d'avoir une convention globale. On a préparé des dossiers qu'ils ont refusé de lire. Et sur des questions politiques et idéologiques, ils refusent de nous le donner. Et ils essayent de nous pousser à signer des COP individuelles. Et là, il y a des fiches qui ont été déposées qui... dans la façon dont elles ont été rédigées, qui montre que sur les parcelles et les différents projets, en fait, tout est entremêlé et que c'est pas possible de faire comme si tout était séparé, parce que sur certaines parcelles, il va y avoir de l'orge d'un paysan, des arbres d'un collectif qui habite ici, et que au moment où on enregistre cette parcelle dans le fichier de l'État, il y a de l'orge et des arbres. On ne peut pas faire comme s'il n'y en avait aucun des deux, ou qu'un des deux. Voilà.
On entend parler d'évacuation. Ils sont en train d'évacuation forcée, évidemment, et violente.
Ils étaient,
ils
oui.
Ils sont en train de vous forcer à partir, ou vous êtes simplement à un certain endroit et pas partout.
Eh bien, ils ont tapé à un certain endroit, à une certaine zone, plutôt dans l'est de la zone. Mais c'était le 9 avril, et ça a duré 3 jours.
3 jours,
et après ils ont appelé ça une trêve, ils ont arrêté, mais...
Mais ils ont tout démoli, ils voulaient.
Ils ont démoli 29 lieux sur les 97 qu'ils ont recensés. Parce qu'on est là.
Non, mais parce que vous n'êtes pas des loyers, enfin, comment ça se passe, vous
avez... Ah non, bah, on squatte, on occupe.
Il ne peut pas y avoir de loyer, puisque c'est une zone de lutte. Personne.
Vous êtes quand même un statut de squatteur.
Il y a plus... Voilà.
Tout le monde, même les historiques, ils sont encore squatteurs chez eux.
Est-ce que vous avez des soutiens politiques et juridiques? Il faut des gens du système.
Soutien politique,
oui,
zéro.
Vous jetez.
Ça, c'est simple, oui. Zéro.
Mais juridique, il y a quand même
zéro.
Les Verts.
À part José Bové. Voilà.
Mais
ça s'arrête là, quoi.
Après,
on a fait une personne.
Nicolas Hulot, non.
Sur je ne sais pas combien de centaines de
voix.
Nicolas Hulot, ah non, lui, c'est un fantoche, lui, c'est pas pareil. Ouais. Un faire-valoir comme Voynet a été faire-valoir de Jospin, etc., etc. De toute façon, le ministère de l'écologie en France a toujours été qu'un faire-valoir pour gagner quelques voix, et ça s'arrête là. Non, non, zéro homme politique.
Et au niveau juridique,
il y a des avocats, oui. Il y a un collectif d'avocats qui nous aide à trouver les notions de droit qui sont pour nous, quoi, qui vont dans notre sens, mais
c'est
plus long. Je sais pas. J'ai pas de nom comme ça.
Ce que vous occupez, ça s'appelle une ZAD, comment ça s'appelle? Une
zone à défendre.
Non, zone
à défendre.
À défendre. Est-ce qu'il y en a d'autres
En France? Ouais, il y en a.
Vous n'êtes pas les seuls ou bien...
Ah non, il y en a d'autres, oui, qui
d'accord.
existent.
Et vous vous regroupez entre. Est-ce que vous essayez de vous regrouper pour faire une plus grande force? Parce que, en fait, ce qu'on peut lire dans la presse, c'est qu'on vous montre, on vous dépeint plutôt comme une bande de marginaux, squatteurs, sans véritable projet. En fait, moi, en tout cas, je vois. Je voulais savoir par rapport à ça.
On a une grosse lacune. On n'a pas amené d'image là, mais
ouais.
On aurait dû vous amener des images pour vous faire voir qu'il y a des tas de choses qui se font, quoi. Les expliquer comme ça, c'est pas très facile, quoi.
Mais par rapport à ta question sur est-ce qu'on se voit avec les autres luttes, on fait des journées de rencontres, je pense une ou deux fois par année, qu'on appelle ça l'interlutte ou je sais plus pourquoi, l'intercomité.
Intercomité, c'est
oui,
ça, c'est
Bah, oui, ça arrive que, par exemple, il y a Bure, on les voit souvent. À Roibon, il y a une ZAD aussi.
C'est dommage on se connaît, quoi. Évidemment, vous n'avez pas le contrôle sur la presse et les médias, mais c'est dommage que, en fait, on puisse pas voir aussi ce côté là, parce que, en fait, nous, ce qui nous arrive, c'est pas forcément les vraies nouvelles et ce qui se passe vraiment, quoi. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils reçoivent aussi.
Après, il s'agit aussi de regarder vers quels médias tu t'orientes.
Ouais.
Et en fait, par exemple, sur tous les médias qu'il y a sur Internet, en fait, il y en a quand même beaucoup qui sont partisans, notamment surtout Mediapart et Reporter.
D'accord.
Et il y a une journaliste de Mediapart qui vient fréquemment sur Zone, qui devient
aussi
un emploi, quelqu'un qu'on connaît. Et qui, enfin, par exemple, elle était là pendant l'évacuation du lieu de vie sur lequel je vis. Donc elle a tout filmé, la vidéo elle est sur internet, donc là par exemple ça donne une image du comportement des policiers à ce moment-là. Et sur c'est sûr que si les vidéos qu'on regarde c'est M6 ou TF1, ça reste assez succinct dans la vision qu'ils vont donner de la ZAD, mais il y a quand même beaucoup d'automédias, et que ce soit pour regarder sur le site même de la ZAD, qui est zadnadir.org, je peux te le noter après, ou alors sur Mediapart, qui est un média engagé qui se passe sur internet. Faut prendre un abonnement à 3 euros par mois et
ça. Moi je suis bien consciente de ça, etc. J'ai pas l'intérêt, mais en tout cas je voulais juste vous dire que je trouve très très courageux. Je sais que c'était très violent. Félicitations.
Non mais c'est le problème de se pas faire de partout. Ici en Suisse on a un exemple intéressant, c'est que le quartier des Grottes a été sauvé par les squatters. Mais ce que je voulais vous demander, j'ai étoffé mon argument, c'est que le quartier des Grottes est un quartier vraiment exemplaire parce que la population ensuite a joué le jeu. Et dernièrement, on a gagné parce qu'ils voulaient détruire des maisons pour agrandir la gare. Mais tout le quartier s'est mobilisé. Par contre, il y a eu une expérience malheureuse, la maison Rigaud. Là où il y avait aussi
un squat
magnifique. Et là, en un jour, le propriétaire a tout balancé. Ils ont été aussi traités de marginaux et tout ça. Mais tous ceux qui ont maintenant, on reconnaît que c'est les squatters qui ont sauvé le quartier des Grottes. Le quartier des Grottes n'aurait que des maisons barres,
des grands immeubles actuellement.
C'est un quartier magnifique, des Grottes, qui vit. Mais c'est la population qui l'a sauvé.
Oui, mais c'est ça.
Comment ça se passe au Hollande? Est-ce qu'il y a une population? Est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent?
Les gens, en faire le plus. Tout le monde a sa part dans cette lutte et dans la victoire par rapport au projet d'aéroport. Les indices tout seuls n'auraient pas été suffisants, les paysans tout seuls n'auraient pas été suffisants, la société civile toute seule n'aurait pas été suffisante. C'est l'ensemble de tout qui a fait que ça a mobilisé, etc. On a toujours créé un rapport de force qui a permis de repousser les échéances toujours plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à l'abandon. Et maintenant, il faut qu'on arrive à recommencer ce phénomène-là. Mais voilà, on a eu un déficit d'explication pourquoi. Par exemple, nous, paysans de copains, on soutient ces jeunes maintenant qui sont là. Pourquoi on ne leur demande pas de simplement partir, puisque la lutte est gagnée? C'est parce qu'effectivement, ces terres sont libres. Elles ont été entretenues par ces gens-là pendant 5 ans, 6 ans. Il est normal que s'ils veulent rester, ils ont des projets. Qu'on soutient en plus, qu'on a aidé à mettre en œuvre. Donc, c'est normal qu'ils restent, quoi. Bon, alors, il faut refaire le travail, mais après, on va vous rétorquer... l'état de droit, etc. Mais personne ne veut aller contre l'état de droit maintenant. Il faudrait que le propriétaire propose quelque chose et accepte que ce soit des gens comme ça qui s'y installent. Et collectivement, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué dans l'affaire.
Ouais. Mais pourquoi à Genève, je dis qu'à Genève, en quoi on peut vous aider?
Si vous avez le temps, le 13 mai, vous prenez vos moyens de transport habituels et vous montez à la ZAD. Mais si, vous n'avez peut-être pas tous le temps de faire ça.
Je ne sais pas combien, parce qu'ici aussi, il y a des luttes à
voilà.
faire.
Il y a des comités de soutien.
Il y a un comité
de soutien à la ZAD à Genève. que je connais des gens. Je sais pas, David, si toi tu fais partie du comité, si tu veux.
Oui, c'est un tout petit comité, c'est très modeste, hein, mais en tout cas, c'est juste. Il y a en tout cas une mailing list avec l'activité sur la ZAD qui prend en compte des appels justement à converger pour des manifestations ou des choses qui transmettent.
Qu'on trouve dans le courrier ou.
Et des fois, dans le courrier, mais pas.
Pas de la partie. Pour être informé, c'est pas évident.
Oui, c'est.
Ouais. Mais par exemple, en fait, justement, au niveau des actions. En fait, David, là, à travers le comité de soutien ZAD, dernièrement, ils sont venus avec une petite voiture qui, maintenant, quand même, est un peu une légende sur zone, parce que vu la quantité de matériel qu'ils ont ramené dans cette toute petite voiture. C'était extraordinaire et ça fait hyper chaud au cœur. Donc voilà, là en l'occurrence il s'agissait d'une génératrice pour produire de l'électricité à partir d'essence, un vélo, des outils, de la nourriture, du matos de médic pour se soigner avec les lacrymos et tout ça. Voilà. Oui.
On est aussi entièrement reconnaissant aux actions décentralisées. Hein. Les gens ne sont pas obligés de venir sur la ZAD. Hein. Tout le monde ne peut pas venir sur la ZAD. Mais si, à un moment précis, quand ça chauffe dur, une petite manif devant votre mairie ou je ne sais quoi, tout le monde a de l'imagination pour essayer de faire parler, hein, sans prendre de risques et tout ça, il n'y a pas besoin. Mais de faire parler un peu partout, c'est suffisant. Hein. C'est aussi ça, le rapport de force. Quoi. Mm-hmm. C'est voir que le soutien est grand et nombreux. Quoi.
Mais quel est l'objectif de l'État ? J'essaie justement de. Est-ce qu'ils veulent des factures ? Est-ce qu'ils veulent la revente ou...
L'objectif de l'État, c'est qu'on arrête de contester tout ce que M. Macron dit. Donc,
exactement.
La zone n'a pas existé. Terminé. Les cheminots ferment leur gueule, les infirmières n'ont pas le droit à la parole, les parents d'élèves doivent se taire, les étudiants, qu'est-ce qui nous emmerde ? C'est ça. Voilà.
Cool.
C'est pas compliqué.
Ça change pas.
Bon,
bah. L'objectif de l'État, c'est qu'il n'y ait pas d'alternative. C'est juste que le problème, c'est que voilà, donc, ce qu'on fait, c'est pas non plus extraordinaire. Juste, on cultive des jardins, on élève des animaux, on fait des conférences, mais on le fait sans eux.
Moi, je fais normal. Vous dites maintenant, il y a cette initiative qui va partir. Notre conseil de l'État a refusé carrément toutes les chambres. Donc, il le refuse. Donc, chez nous, c'est un peu la même chose, non?
Oh oui, oui.
Je pense que c'est pas mieux, même, parce qu'ils font des libre-échanges avec la Chine, toutes nos industries sont en train aussi d'être bouffées, achetées par la Chine. Enfin, il y a des choses où nous, mais on est complètement désarçonnés. Mais bon, je pense qu'il y a quand même, quelque part, on a réussi quand même à garder un équilibre, je crois. Et un équilibre quand même où il y a des choses qui se passent, où il y a des têtes. Vous avez quand même éliminé Marie Le Pen, c'est magnifique. Nous, on a éliminé l'autre aussi. Le aussi, c'est quelqu'un qui a été du MCG, qui n'a pas été élu. Alors qu'ils ont couvert avec 1 million de fric tous les bus, les trams. Mais c'était impressionnant. Moi, j'étais absolument écœurée parce que la pub pour les autres, on ne les voyait pas. Et bien, ils ont perdu. Donc je pense que quand même, je ne sais pas ce qui se passe ici, peut-être qu'on a...
Il y a une conscience qui se développe.
Il y a une conscience qui se développe, peut-être qu'il faut que les gens bougent, et je crois que c'est...
Parce que chez nous,
c'est la formulation, c'est de continuer.
Parce que chez vous, il y a quand même pas mal de damas qui sont en place. Et c'est quand même un mouvement qui est assez joli depuis déjà pas mal de temps.
Mais en France, il y a toute une... Il y a une petite partie de l'agriculture maintenant qui est complètement autonome. Hein, qui,
tout à fait.
Voilà, parce qu'il y a les AMAP, c'est un fait, mais il y a aussi les marchés, il y a tout un tas de choses. Il y a la vente à la ferme, il y a la vente par correspondance maintenant. Parce que
dans le
système actuel, le transport ne coûte rien. Il y a des paysans qui sont en plein Massif central ou dans le fin fond des Pyrénées qui vendent leurs marchandises directement à des clients qu'ils connaissent, qui ne vont pas tous les jours bien sûr, mais qui connaissent. Ça marche très bien.
C'est,
quoi.
C'est l'idée, enfin, peut-être que si. Enfin, parce que le problème principal que vous avez, c'est que le gouvernement ne veut pas accepter votre système de fonctionnement parce que vous voulez vous représenter en tant que
collectif
et non pas en tant qu'individu.
Oui, mais ça c'est par rapport à cette histoire de de zone.
Oui, tout à
mais
fait.
Après, un paysan qui veut vendre sa marchandise directement à un client, là, l'État, il peut quand même pas l'empêcher, quoi.
Oui, tout à fait. Mais si vous
il peut l'emmerder, mais il ne peut pas l'empêcher.
Mais si vous, si vous souhaitez peut-être réussir à prendre à part, d'être propriétaire de vos terrains, parce que c'est vos terrains, vu que vous travaillez dessus, que vous êtes dessus depuis des années, et puis que vous vivez là, enfin c'est comme, je sais pas, c'est comme quand tu te maries avec quelqu'un, c'est ta femme, quoi, c'est la même chose. Et puis du coup, je me dis que peut-être si vous changez la vision du collectif et que vous vous déclarez comme AMAP ou comme ONG ou des choses comme ça, à ce moment-là, ils pourraient peut-être moins avoir accès à la possibilité de vous foutre dehors, quoi. Enfin, parce qu'en fait, c'est que vous n'avez aucun poids légal, visiblement, par rapport à la terre.
Nous, ça, ces gens-là, ils ne nous intéressent pas, hein, aussi bien les ZADIS que les gens qui les soutiennent, ils ne nous intéressent pas. Mais ils ne sont pas tous, enfin, il y en a plein qui sont idiots, bon, c'est vite
oui,
correct,
non, mais
ils
ne
sont pas tous idiots. Parce que la représentante du gouvernement a commencé par dire à la délégation, quand elle s'est présentée la première fois, qu'il ne fallait pas qu'on essaie de lui faire un petit dans le dos, parce qu'elle sait très bien que tout ce qu'ils font, c'est pour rester en collectif, et ils n'en veulent pas de ce collectif.
Donc, oui, mais voilà. Justement, mais
ils ne sont pas dupes de la chose.
Mais si vous vous inscrivez,
on peut l'appeler comme on veut.
Si vous allez voir un notaire, vous payez chacun 500 balles et puis, ou 500 euros.
Il faut qu'il y ait un vendeur pour acheter la terre. Pour l'instant,
oui, on ne peut pas acheter.
Ouais, vous ne pouvez pas l'acheter, mais si vous vous enregistrez en tant qu'organisation non, à but non lucratif,
non, on travaille.
Non, mais ça a déjà été fait.
Ça,
c'est fait.
C'est fait,
mais c'est pas reconnu.
Ouais.
Pourquoi,
il y a même des jeunes, il y a même parce qu'on a le bouchon, il a été poussé un peu loin. Il y a déjà des gens qui sont déclarés à la mutualité sociale agricole en France. Et quand on se déclare à la mutualité sociale agricole, on a le droit de vendre
les produits
sur le marché.
Tout à fait.
Donc ils ont reconnu ça depuis 2-3 ans déjà. Et là, ces gens qui sont reconnus depuis 2-3 ans ou quelques associations qui sont là qui sont vieilles, qui sont reconnues qui ont été acceptées il y a plusieurs mois voire plusieurs années. Là, aujourd'hui, elles valent zéro. Il faut qu'ils refassent un papier, individuellement.
Mais au niveau de la loi, ils n'ont pas le droit de vous enlever le gagne-pain. C'est comme si on était fou à la porte de ton entreprise.
Mais oui, mais c'est ce que je dis, au niveau de la loi, on a le droit de manifester. En France, on ne peut plus manifester. Enfin, à Nantes, en tout cas, on ne peut plus manifester sans être matraqué. Donc, voilà. Il y a plein de choses, au niveau de la loi.
L'état de droit, il a bon dos, mais oui. Ils veulent faire reconnaître
loi,
l'état de droit quand ça les arrange. Ouais. Mais eux, ils ne respectent pas la loi.
Ils
procèdent à des évacuations qui sont illégales.
Les gens terriens, là, qui ont du terrain, eux, et qui pourraient être avec vous.
Non,
essayer de mixer le collectif avec des gens qui ont leur terre.
Par exemple, tout le monde a été exproprié. Donc les paysans qui continuaient à habiter et cultiver sur place, qui ont refusé en fait de vendre, ils ont été expropriés. À partir de là, ils sont pas partis, donc ils ont été considérés comme des squatteurs pendant plusieurs années, exactement au même titre que nous, alors qu'ils habitent là depuis des décennies. Et que c'est maintenant, exactement de la même manière, en fait, au milieu des conflits, au milieu des flics, il y a des vaches. Enfin,
c'est
juste.
Voilà. En Suisse, à Genève, quoi.
Cette mixité-là, elle est là, en l'occurrence.
C'est le même problème que l'on a avec les zones à bâtir. La zone 3, là, où en fait, ils ont changé la loi dans les années 50, les gens ne s'en sont pas rendus compte. Maintenant, c'est des zones à bâtir.
Et puis les gens se font exproprier.
Personne ne veut acheter ça parce qu'on va mettre des barres là-dessus. Vous savez, des propriétaires, effectivement, qui ont plein de petites maisons, déjà, tout ça, qui ne peuvent plus rien faire parce que, en fait, ça appartient déjà presque 2-3 ans. Et quand il y a un décès ou qu'ils veulent vendre, ben, c'est des pas cachés. Et dès qu'elle a assez, ils mettent une barre et
tout.
Mais ça, c'est dans les zones industrielles, enfin, les zones populaires, c'est pas à Coligny.
Ah non, ça,
c'est d'œuvre.
Ça, on parle peut-être pas trop. Non, mais
c'est le même principe. Mais comment est-ce qu'il. C'est très dur. Moi, j'ai vu un collectif se battre, le Mervelet. Il était vraiment là. Mais j'ai vu l'autre jour une barre qu'ils ont mis au milieu du Mervelet. Mais c'est à pleurer.
Au petit Saint-Denis ou au grand Saint-Denis.
Moi, je me demandais si vous aviez, pour ce que vous proposez, en fait, comme à l'État et tout ça, ce que vous lui avez donné comme dossier. est-ce que vous avez vous basez sur quelque chose qui existe déjà et vous pouvez dire ah mais vous voyez là ça a super bien marché et puis la population locale elle est contente et... Là je pense comme ça à Christiana mais je sais pas du tout si c'est le même enfin, vous connaissez ou pas?
Oui.
C'est au Danemark et... mais je sais pas si c'est le même style type ou quoi mais un peu comme argument un peu comme droite en fait.
Oui, les quartiers qui se défendent. Chercher des modèles en Suisse allemande, la Suisse allemande est beaucoup plus organisée pour garder des quartiers villas dans les villes, faire de la mixité. Genève, ils font des barres en ce moment.
Bah, dans les trucs qui ont été proposés, en fait, quelque chose qui. En fait, dans les hypothèses juridiques pour sortir du conflit qu'on leur a proposé, il y a le bail emphytéotique. Un bail emphytéotique, c'est un bail à très long terme sur des grandes parcelles et c'est ce qui a été fait au Larzac. Mais ils ont refusé d'emblée. Directement.
Vous n'avez pas l'impression qu'en fait vous êtes devant un gouvernement qui veut absolument la bagarre et qui veut avoir raison et point.
C'est un combat idéologique.
Donc on peut bien dire n'importe quoi, on peut bien donner des exemples, etc. Il n'y a rien à faire.
Pourquoi alors là, vous dites
qu'ils
ont accepté à
un
endroit
Non, parce que. En 83 et maintenant, il y a une eau qui a coulé sous les ponts, quoi.
Et puis pas dans le bon sens, apparemment.
C'est un gouvernement apparemment assez sourd. Enfin, c'est pas très sympa pour les sourds d'ailleurs. Mais en fait, c'est ça. Il faut adopter leurs arguments, quoi. Il faut essayer de se battre avec des. Enfin, j'imagine que vous y avez pensé mille fois. Hein, je dis pas, mais un peu des choses qui peuvent comprendre comme. Étant de leur intérêt aussi, ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça, mais en fait, il y a une négociation en fait qui est en cours avec des rendez-vous réguliers avec les services de l'État et les fiches qu'on a remplies à notre manière et qu'on a notre façon de remplir les fiches qui montrent en fait que tout se superpose, que tous les. En fait, qu'on va tous ensemble et qu'ils ne peuvent pas juste nous séparer et faire le tri comme ça. Et... Après toute cette négociation-là, je pense qu'il faudrait écrire un livre dessus au moment où ce sera fini, que c'est fonctionné ou pas.
Et les fiches, les projets qui sont dessus, ça ne part pas de rien non plus, ça existe vraiment, tu vois, c'est du concret quand même.
Ça fait du chômage en moins, sinon pas
si pas. Oui, c'est ça.
Par exemple, en fait, sur les fiches, ce qu'ils vont dire, si par exemple, sur le lieu de vie où on habite, on a un jardin qui nous permet de faire pousser les légumes qui nous font vivre. Je sais pas, c'est un jardin qui fait 0,1 hectare. Et donc on présente ça comme projet de maraîchage. Mais évidemment, ils considèrent que c'est pas économiquement viable. Parce que c'est pas un produit qui est destiné à la vente. Et ils arrivent pas à considérer que c'est destiné à te nourrir, toi, tous les jours qui se passe. Quoi. Donc ils disent non, ça c'est un projet irrecevable car il est pas économiquement viable. En fait, c'est la souveraineté alimentaire, c'est dans ton jardin la nourriture que tu manges tous les jours.
Mais moi, j'ai une question parce que voilà, j'ai compris que l'aéroport va être construit et ce gouvernement là, il a fait une action de force pour vous chasser du côté est, mais c'est pour montrer en fait que c'est les plus forts parce que en fait, en quoi vous dérangez ? Parce que, en fait, c'est une zone écologique. Donc, quel est l'intérêt du gouvernement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces manigances, en fait ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ?
Ça marche pour eux, ça pourrait marcher pour d'autres. Ils ne veulent pas, ça ne veut pas. C'est complètement eux qui veulent ramasser le plectone.
C'est pas surtout pas qu'on donne de mauvaises idées.
Ah, d'accord.
C'est ça.
C'est complètement politique.
Il ne faut pas croire qu'ils sont avec nous.
D'accord.
Eux, ils bossent pour leur
porte-monnaie. Même si tous ces jeunes... avaient déposé des dossiers individuels, etc. Et comme il y a eu une lutte, qu'ils l'ont perdue, etc., je suis sûr qu'ils auraient trouvé autre chose. Ouais. Parce que là, ils font signer des COP pour l'instant, des conventions d'occupation précaire. Ça veut dire que l'année prochaine, il faudra les renouveler. Et quand elles seront à renouveler, on pourra dire, bah, toi, ton projet ne nous intéresse plus, on va mettre le paysan d'à côté qui a besoin de plus de terre. Et puis, tac, terminé, une partie. Ils peuvent tout inventer. Après, ils peuvent dire, bah, maintenant que vous êtes là, voilà, vos projets sont en place, donc, ok, mais... vous allez passer dans les commissions qui se font pour tout, pour tout, en toute fait, personne qui veut s'installer en paysannerie dans le département.
Ils veulent vraiment que vous soyez indépendant pour avoir le pouvoir, en fait.
Non, ils veulent qu'ils s'en aillent.
Ils ne veulent pas que vous soyez comme une forme de société peut-être novatrice, pour que vous soyez une forme d'exemple comme ceci.
Bon exemple, c'est eux.
Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas d'attendre patiemment, enfin pas patiemment, pendant 4 ans que Macron fiche le camp?
Moi je veux bien, mais 4 ans avec les pelleteuses, les chars et les bleus dans les champs, ça va pas être terrible quand même.
Excusez-moi,
dans ce temps
de force.
Attends,
ferme
la porte. Je vais vous laisser
un peu ouvert quand même.
Tu peux. Bon, en fait, vu de loin, ça a l'air assez, assez fascinant que c'est possible de réaliser des évacuations. Et dans sa porte de force, selon vous, c'est tenable en même temps la situation, vu qu'apparemment, institutionnellement, c'est extrêmement compliqué.
Ça dépend des gens qui vont venir, ce qu'ils vont y faire.
Là, ça, ça
j'imagine qu'il y a des cultures qui sont un peu perdues, des choses comme ça, ouais. Qui à terme aussi.
Donc, ouais, ça, c'est un rapport de force qui peut se créer avec tous les paysans du coin qui vont trouver inadmissible qu'on détruise des cultures, par exemple. Parce que même quand il y a conflit entre deux paysans, si un champ est semé, le deuxième paysan, il ne va pas passer par-dessus. Quoi. Ça, c'est inadmissible dans la paysannerie française. Donc, ça peut être un rapport de force. Mais en 2012-2013, il a fallu résister suffisamment longtemps pour qu'il y ait tellement de bleus qui allaient voir le médecin pour se faire arrêter qu'ils ont retiré les troupes. Quoi. Est-ce que ça va être pareil là? Je ne sais pas. Ils ont cassé, on a reconstruit, et là, il faudra peut-être qu'il y ait encore de la casse et qu'on reconstruise. C'est ça le truc. On ne peut pas donner de temps. Quoi. Mais si, du jour au lendemain, ils viennent avec 5000 flics, bien sûr, ils vont tout casser. Mais les 5000 flics, ils peuvent pas rester là pendant un an, deux ans, trois ans.
Mais c'est ça. Est-ce que vous sentez donc vos forces un épuisement se rapprocher? Ou là, pour l'instant, c'est un peu un rythme de croisière qui peut être tenu.
Ben, ils ont baissé le rythme déjà là. Ils ont un rythme de croisière qui est plus bas qu'il y a eu pendant 15 jours. Quoi. Là, ils ont un peu baissé.
Non, moi qui.
Dans Laurent. Moi, j'ai regardé à ce qui se passait. Il y a plein de gens qui sont arrivés, qui se sont battus. Et là, il y en a plein qui sont partis. Et je pense que vers le 14 mai, il y en a plein qui vont revenir. Et voilà quoi. Les gens, ils partent en vacances, ils se reposent, ils retournent chez eux, ils vont revenir. Je pense qu'ils vont revenir. Il y a pas de. Je m'inquiète pas trop. Hein.
Il y a différents niveaux en fait de résistance. Il y a la résistance vraiment frontale où ils viennent pour détruire. Il y a la résistance sur le long terme en fait pour reconstruire après. Et à ce niveau-là, il y a différentes choses qui se font. Par exemple. Je vais en profiter pour introduire la fifiche qui circule, comme ça, ça me semble être un peu le bon moment. C'est que moi j'habite sur le lieu de vie des Sans-Noms qui se fait détruire le 9 avril. Et on a un troupeau de 20 brebis qu'on est en train d'essayer d'agrandir pour avoir une production laitière et de viande. Et voilà, et en fait là, donc notre lieu de vie il a été détruit, notre bergerie elle a été détruite. Et évidemment qu'on a toujours les moutons et qu'on a toujours notre projet de vie. Donc on va se réinstaller tout prochainement. Et là, cette fifiche, c'est pour vous proposer de parrainer des moutons pour accélérer un peu l'agrandissement du troupeau parce qu'on n'a pas accès, vu qu'on est des squatteurs, on n'a pas accès aux subventions pour l'installation agricole. Donc voilà, si vous voulez parrainer une brebis, il y a toutes les fifiches, là, on peut faire ça après.
Ouais. Ça, c'est bien aussi de voir que vous ayez si peu de soutien. Essayez peut-être, si les politiciens ne veulent pas essayer, je ne sais pas, quelqu'un écrivant un livre, faire de vous. Moi, j'ai pensé, on a le prix Nobel en Suisse. C'est avant. Mais lui, il parle, enfin. Moi, je suis sûre qu'il serait d'accord. Enfin, bon, il ne peut pas, puisqu'il est en Suisse, mais j'entends. Il faut trouver des gens qui vous soutiennent.
Oui. On a quelques intellectuels là qui commencent à sortir des trucs.
C'est de là qu'il faut
mais oui, mais on peut pas.
vous pouvez, si vous pouviez venir passer 8 jours de vacances sur la zone et voir comment ils vivent. Moi, je comprends qu'on ne peut pas passer notre temps à essayer d'obtenir de soutien de gens qui sont de toute façon faux et qui de temps en temps vous mettent des coups de poignard dans le dos. Hulot vient de le faire encore une fois de plus, alors que tout le monde pensait que lui ne le ferait quand même pas. Quoi. Il avale déjà assez de couleuvres qu'il n'avait pas en plus mettre un coup de poignard dans le dos à quelque chose. Quoi. Et bien, il l'a fait. Donc, on ne peut pas courir après des soutiens politiques. Ce n'est pas possible. D'abord, on perdrait notre temps. Et en plus de ça, c'est des gens qui sont tellement peu fiables. On a aucun homme politique valable en France, aucun. Aucun homme qui... C'est ça le problème.
Mélenchon, il ne vous soutient pas.
Qui ?
Mélenchon, par exemple.
De toute façon, qui Mélenchon, il prône l'école obligatoire à partir de 3 ans.
Si, Mélenchon, il était contre le projet, mais maintenant, depuis que le projet est arrêté, on ne l'a plus entendu. Quoi. On ne sait pas si...
Vous l'avez recontacté, s'il était contre.
Ah non, on l'a pas recontacté, mais de toute façon...
Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on vive dans un monde sans soutien, en fait. Enfin, il y a du soutien qui vient de partout dans le monde, on a des messages de soutien, on croule sous le chocolat et les chaussettes. Le soutien, il est vraiment là, il est présent. Dans les sphères politiques, il n'y a pas de soutien, mais tant mieux, parce qu'ils sont tous vendus. Mais en fait, de la société civile, de personnes qui viennent de partout dans le monde, enfin... Il y a quelques mois, il y a un mec, il est venu de Corée du Sud pour voir la ZAD. Juste, il était malade. Il était venu de Corée du Sud pour voir la ZAD, parce qu'il était militant écolo et qu'il voulait savoir ce que c'était. Enfin, j'ai l'impression que du soutien...
Il a donné un écho dans son pays.
Et je pense.
Oui, parce qu'il y avait le même projet d'aéroport en fait en Corée du Sud, et il était en lien avec la ZAD, et il se battait contre là-bas.
Après, les hommes politiques, chez nous, on a très peu d'hommes politiques indépendants. C'est-à-dire qu'ils se présentent devant leurs électeurs, ils sont élus à tel et tel poste, et à part des petits maires ou des choses comme ça, dans les petits villages, etc. Bon, on a sans doute plein de petits, mais ceux-là, ils n'ont aucun impact sur le gouvernement. Après, les autres, ils sont dans des partis. Et dans les partis, nous, par exemple, des socialistes, il y a 20 ans en arrière, les socialistes, on parlait avec eux, il y avait des manifs des fois communes, etc. Et depuis 20 ans, on ne les voit plus, parce que quand on est socialiste en France, on est pour l'aéroport, donc on ferme sa gueule et on suit le chef, quoi. Et ben voilà, ça s'arrête là. Donc les hommes politiques, il n'y en a pas, quoi. On n'en a pas, on ne peut pas en avoir, c'est impossible, ils étaient tous pour l'aéroport. Là, ce qui leur est arrivé, là, ils ont tous pris un coup de massue, quoi. Je pense que Grosvalet, le président du Conseil général de Loire-Atlantique, pendant au moins 8 ou 10 jours, il n'a pas dû dormir, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. L'aéroport, c'est pas fait... C'est comme si, ils devaient se rouler par terre. Hein,
comment ça se fait que la décision a été annulée, qu'ils ont abandonné le projet ?
Parce qu'ils se sont laissés déborder par les événements et ils n'ont pas demandé la réactualisation de la déclaration d'unité publique assez vite. Quoi. C'est un peu malgré eux, je pense. Ils se sont fait piéger leur propre...
Je
ne
sais pas si on a...
Au revoir,
bonne soirée.
Merci,
au revoir.
Vous n'avez
pas mis l'adresse là. Ça va avec.
Oui, il y a plusieurs.
C'est tout un petit. On présentera là, après.
Alors, du coup, là, ça tombe bien qu'elle vous ait proposé ça, parce que en parlant de souveraineté alimentaire, et ben voilà, moi je pense qu'il vaut mieux que vous souteniez des paysans suisses au lieu qu'ils demandent des subventions, etc., que ce soit la population qui les soutienne. Et du coup, vous allez vous-même gagner votre souveraineté alimentaire. En demandant à ces gens-là après de faire de la bonne bouffe, quoi, et d'en profiter vous, quoi.
Merci d'être venu
jusqu'ici
pour
nous informer, nous solliciter.
Et nous informer directement, c'est ça qui est bien.
Oui. C'est vrai, quelques photos, ça aurait été sympa. Hein.
Oui,
on les a oubliées en partant.
On est un peu... On a un peu déconné là sur la préparation du voyage.
On était un peu surmenés comme ça. Voilà.
Et pour la documentation de l'initiative, du coup, mon camarade est bloqué à Lausanne, donc je vais écrire
au moins le site,
comme ça, sur une feuille. Et puis, on couvre une grande partie des événements où on présente nos brochures à Genève. et dans toute la Suisse. Donc vous serez sûrement amené à revoir d'ici le septembre des documentations à partager. Voilà.